Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Ex, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous choperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattables. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'un million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bash, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Ex, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Je ne vous apprends rien, la vie est longue et le chemin jalonné d'épreuves. Et vous qui écoutez Ex, peut-être que vous êtes en chagrin d'amour ou que vous vivez une crise dans votre couple. Vous savez quoi ? Le chemin de vie de Raphaël devrait vous inspirer et vous aider à passer au-dessus des nuages.
Nous sommes en 1984, j'ai 17 ans, je suis en terminale. Et à l'époque, j'ai un meilleur ami avec qui je passe énormément de temps. Je passe mes week-ends, on est tout le temps ensemble et... ce meilleur ami a l'habitude, quand on se balade en moto tous les deux, de temps en temps de me demander d'arrêter parce qu'il croise une fille, toujours la même fille, et dont il a le béguin, je la connais pas, je la vois de loin, souvent je l'attends sur ma moto et lui va lui parler. Et ça dure pendant à peu près toute l'année terminale, jusqu'au jour où, à l'été donc 1984, la fin de ma terminale, un jour on va à la plage, lui et moi, et on tombe sur cette fille avec sa sœur qui sont là. Cette fille s'appelle Céline, et on discute un petit peu avec elle. Elles repartent avant nous, et au moment où nous repartons, en fait, on les croise. Elles étaient venues en mobylette, en tchao à l'époque, et le tchao est crevé. Et donc, elles nous demandent si on peut les aider. Moi, à l'époque, j'ai une moto, sa sœur est majeure et a le permis, donc j'amène sa sœur chez elle, qui prend la voiture, qui revient, qui prend le tchao, et pour nous remercier, elle nous invite à boire un verre chez elle. Les parents sont pas là à cette époque-là. Je crois qu'ils sont en vacances. Et en sortant de cette soirée, je me souviens très bien avoir dit à mon meilleur ami, je suis un peu embêté parce que j'ai eu un coup de cœur sur Céline. Et là, mon meilleur ami me répond, bah, écoute, ça tombe bien parce que moi, j'ai préféré sa sœur que je connaissais pas. Et donc, ce soir-là, on décide tous les deux de sortir l'un avec Céline et l'autre avec sa sœur, ce qui va se passer quelques jours plus tard. Ce soir-là, en fait, il se passe quelque chose de complètement magique. C'est que quand on arrive chez elle, Céline va prendre sa douche. Nous, on est sur la terrasse avec sa sœur et elle revient nous rejoindre quelques minutes ou pas 10 minutes, 20 minutes plus tard. Et je me rappellerai toujours de ce moment. Elle a un peignoir blanc, les cheveux mouillés et je crois que je suis tombé amoureux d'elle à cet instant. Vraiment à cet instant. J'avais 17 ans, j'étais très jeune, mais je crois que quand on parle de coup de foudre, j'ai vraiment eu un coup de foudre à ce moment-là quand je l'ai vue arriver, les cheveux mouillés dans son peignoir blanc. Et toute la soirée ensuite, parce qu'on est resté assez tard, a été une soirée où on a beaucoup rigolé, où j'ai beaucoup fait l'andouille avec le parasol, où on a sorti beaucoup de blagues, et tout le reste n'a été que la confirmation de ce que j'avais ressenti au moment où je l'ai vu arriver dans son peignoir. Mais le coup de cœur est réciproque. On démarre notre histoire ce jour-là, quelques jours après cet apéro improvisé et cette sortie de douche en peignoir blanc. Notre histoire est vraiment très forte dès le début. C'est vraiment passionnel, c'est très amoureux. Je lui écrivais des lettres tout le temps. Tous les matins, elle se levait devant la porte de chez ses parents. Il y avait des lettres. Mon grand-père était imprimeur. Je vivais chez mon grand-père à cette époque-là. Il avait des feuilles de papier de toute taille et je faisais des lettres de toute taille. Dans ses lettres, je lui écris des lettres d'amour, je lui écris mon amour, je lui écris tout ce que je ressens pour elle, je lui écris tout ce qui est important pour moi, pour nous. Je lui écris beaucoup, je lui fais des poèmes. Je me rappelle même qu'à une époque, un peu plus tard, mais toujours dans le début de notre couple, on était dans le même lycée et j'y suis rentré pendant la nuit avec des bombes et j'ai écrit dans le bâtiment où elle avait ses cours, parce qu'on n'avait pas les cours dans le même bâtiment, on n'était pas dans les mêmes cursus scolaires. Je lui avais écrit des phrases de poésie partout, aussi bien des phrases de moi que des phrases de Baudelaire, que des phrases de Saint John Perse, que des phrases de poètes que j'aimais à l'époque. Et donc j'avais rempli le bâtiment de phrases poétiques issues de poèmes divers et variés. Voilà, en fait, je suis très amoureux. On est très amoureux et on vit un moment particulièrement fort. J'aime beaucoup sa famille, que je trouve à l'époque un peu une famille idéale. Ses parents sont accueillants avec moi, j'y suis très souvent. Moi, à l'époque, j'ai quitté mes parents, je vis chez mon grand-père, que j'adorais, avec qui je passais d'excellents moments, mais de se retrouver dans ce cocon familial accueillant et doux, ça me faisait énormément de bien. C'est quelqu'un qui est très très différente de moi, elle a un caractère opposé au mien, elle est autant silencieuse que ce que je suis bavard, elle est autant sédentaire que ce que je suis voyageur, elle est autant terrienne et ancrée que ce que je suis spirituel et poète. Et nos différences à la fois m'enrichissent beaucoup et des fois me donnent l'impression qu'elle me ralentit, c'est-à-dire qu'elle m'empêche de faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais c'est des impressions, on va dire, fugitives et fugaces, et qui sont mélangées dans un amour très fort qui nous unit à ce moment-là. On est jeunes, mais c'est une histoire qui est très solide et qui est réciproque et qui est très belle. En 1987, ses parents divorcent. La famille idéale vole en éclats. Et Céline en souffre beaucoup. C'est pour elle quelque chose d'une violence vraiment inouïe, et pour moi d'ailleurs une grande surprise. Ça a été un moment dont je me souviens dans notre histoire, puisqu'elle en a beaucoup souffert, et puis parce que moi, j'ai été très surpris de cet événement dans notre vie. En 1990, nous terminons nos études. J'ai fait des études d'ingénieur, et donc j'ai mon diplôme d'ingénieur à ce moment-là. Céline avait passé son enfance à Tahiti avec ses parents, et en avait gardé un souvenir inoubliable, et m'en a énormément parlé, puisque quand je l'ai rencontrée, elle en revenait depuis quelques années. Tant et si bien qu'elle m'a donné l'envie d'y aller avec elle. Et à l'époque, on devait faire son service militaire. Et donc, je me suis débrouillé pour faire mon service militaire comme volontaire aide technique à Tahiti. Volontaire aide technique, à l'époque, c'était finalement de travailler dans le civil comme ingénieur pendant 2 ans. Et donc, on décide à ce moment-là de se marier, ce qui est une évidence pour nous. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble et c'est la concrétisation de notre histoire, de notre amour. Donc on se marie le 18 août 1990 et quelques jours après notre mariage, on prend l'avion pour Tahiti, tous les deux, pour moi aller travailler là-bas comme volontaire et technique et découvrir l'île où Céline a vécu et dont Céline me parle depuis des années. Partir à Tahiti à ce moment-là, c'est une énorme excitation pour tous les deux. Elle parce qu'elle retourne dans un endroit où elle a vécu les plus belles années de son enfance et pour moi parce que je vais découvrir quelque chose qui, dans mon esprit, est paradisiaque et un peu comme un paradis perdu. Elle m'en parle depuis des années. Et donc, pour moi, partir là-bas, et pour Céline également, c'est vraiment à la fois un grand voyage, puisque c'est de l'autre côté hein, de la France, et en même temps, une magnifique aventure. Et je me rappelle encore aujourd'hui de notre départ à l'aéroport. Je nous revois encore à l'aéroport, Céline et moi, jeunes mariés, encore adolescents, toujours très amoureux et très excités tous les deux de partir ensemble vivre cette aventure incroyable de 24 mois à Tahiti. Moi, je pars là-bas pour être volontaire technique et travailler pour l'aéroport de Faa'a, qui est l'aéroport de Tahiti. Et Céline, elle, n'a pas de travail. On arrive, je me souviens encore de l'accueil, de l'arrivée, où plein d'amis de ses parents sont venus nous accueillir avec des colliers de fleurs, c'était très émouvant. Et on est logé dans un faré, qui est le mot tahitien pour dire une maison, en colocation, le mot n'existait pas à l'époque, mais en colocation avec d'autres VAT, d'autres volontaires et techniques. Il y en a 4 autres. Céline et moi, on est le seul couple, Et les autres sont des célibataires et je travaille, le Faré est à côté de l'aéroport. Et moi, je travaille tous les jours à l'aéroport. On passe quelques mois fabuleux, on visite les îles, on visite l'île de Moréa qui est juste en face et toutes les îles de la Société, on va dans les Tuamotu, et on fait un voyage à l'île de Pâques absolument magique à une époque où l'île de Pâques était encore quasiment sans voiture et sans hôtel. Donc voilà, on profite beaucoup de la région et de Tahiti qui est une île absolument magnifique. Et Céline trouve du travail, plusieurs emplois différents. Et là, on arrive dans l'année 91, qui est notre 7e année de couple. Et je commence à sentir que notre connexion et notre relation s'effritent. Je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui est plus comme avant dans notre histoire. Ça se traduit par le fait qu'on est beaucoup moins souvent tous les deux. On est de plus en plus souvent avec les autres VAT. Donc, on est plutôt une bande de copains tous ensemble et on est moins tous les deux. On était un couple assez fusionnel qui passait beaucoup de temps l'un avec l'autre et là, on passe beaucoup moins de temps ensemble. Ça se traduit par le fait qu'on est moins proche, qu'on parle moins. Et là, ça s'étiole. Il y a moins de complicité, il y a moins d'intimité, il y a moins de plaisir à être ensemble. Et ça s'étire sur plusieurs mois, mais je le sens et on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas, je ne sais pas dire aujourd'hui, mais en tout cas, on n'en parle pas, je le ressens et ça se passe. Et puis, un jour, mon responsable me demande de partir en mission aux Marquises. J'arrive aux Marquises dans mon avion normal et à côté, il y a un petit avion qui se pose, un petit avion privé. Et là, je vois sortir de cet avion une femme magnifique. Elle a l'air plus âgée que moi. Moi, je pars à mon hôtel et le soir, je descends pour dîner et je la vois, elle est là. Et donc, je vais lui parler, on commence à discuter. Elle s'appelle Carole, elle a 38 ans. Son métier, c'est elle fait du trading d'art. Donc, en fait, elle fait le tour du monde et elle va dénicher des artistes, des peintres un peu partout pour les revendre sur les places comme New York, Paris, Tokyo. Elle a sa propre société, elle gagne beaucoup d'argent et en fait, notre couple à ce moment-là bat de l'aile, notre couple va pas bien, je sens Céline de plus en plus distante et je la trompe. En fait, je la trompe à ce moment-là avec Carole, on a une aventure, je sais que c'est un adultère mais je sens en même temps que notre couple bat de l'aile, je me pose pas non plus des tonnes de questions à ce moment-là, hein. Je le fais, voilà, ça se passe. Je passe quelques jours avec elle pendant mon séjour aux Marquises, je l'accompagne sur l'île pour aller visiter des peintres. Voilà, on passe quelques jours idylliques, c'est le début d'une histoire qui pour moi d'ailleurs ne va pas durer, hein, c'est une aventure, mais bon, voilà. Et je rentre à Tahiti quelques jours plus tard, et là, je retrouve Céline, qui toujours aussi distante, toujours aussi absente, on va dire. Moi, je le suis évidemment un peu plus encore, puisque je l'ai trompée et que j'ai quand même cette culpabilité au fond de moi de l'avoir trompée. Et là, elle m'annonce... je sais plus exactement quand, mais quelques jours après, qu'elle a pris la décision de rentrer en France. Elle m'explique pas vraiment pourquoi, elle me dit qu'elle en a marre, que le pays lui manque, que j'en ai plus que pour 6 mois, qu'elle m'attendra, mais qu'elle rentre. Donc elle s'en va, et moi je repars aux Marquises retrouver Carole. D'ailleurs l'anecdote c'est que je repars aux Marquises la veille de son départ, je suis même pas là pour l'accompagner à l'aéroport quand elle repart en France. Je pense que là, on est dans nos 7 ans de couple, et moi, dans ma tête, je me dis peut-être que notre mariage, ben voilà, va s'arrêter là, ou que notre histoire va s'arrêter là. Je suis pas triste à ce moment-là. Je suis un peu, on va dire, défaitiste. Voilà, je me dis bon, ben c'est comme ça. On n'a pas encore d'enfants, c'est la vie. Et moi, je retourne aux Marquises quelques jours en mission pour la retrouver. Je passe avec elle quelques jours merveilleux. Je reviens donc à Tahiti avec Carole. Carole loue une villa au bord de l'eau. Et moi, je quitte la maison où j'ai vécu en colocation avec Céline pendant de longs mois. Et je vais m'installer avec Carole dans cette maison. Et on vit quelques semaines merveilleuses, amoureuses, intenses. Jusqu'à un matin où je me réveille. Et Carole me tend un test de grossesse positif. Et là, je sais pas expliquer ce qui se passe, mais mon univers, en une seconde, s'écroule. C'est-à-dire qu'en une seconde, je sors de cette espèce de bulle de plaisir et de légèreté, voilà, dans laquelle j'étais rentré depuis quelques semaines, depuis que j'avais rencontré Carole. Et je reviens dans la réalité. Je réalise que ce test de grossesse veut dire qu'elle va avoir un enfant de moi, que je vais donc devoir prendre mes responsabilités. et donc divorcer, et donc peut-être me marier avec elle, en tout cas assumer cet enfant et vivre avec elle. Et je passe à peu près, je dirais, une journée entière, si c'est pas deux, j'ai pas le souvenir exact, mais je passe une bonne journée à absolument ne rien dire, renfermé sur moi-même, à démonter le Lego de ma vie pour le remonter d'une autre façon, et en me disant, mais ces deux barres bleues là, c'est un cataclysme dans ma tête. Quand je vois ce test avec ces deux barres bleues, c'est comme si d'un coup on m'avait tiré, on m'avait remis dans la réalité, et que d'un seul coup je réalise que Céline était partie, que j'étais en train de détruire mon mariage, que là je venais d'ailleurs de le détruire irrémédiablement puisqu'elle était enceinte et qu'il allait falloir que j'assume mes responsabilités de père, qu'il allait falloir que je divorce de Céline. Et là, en un instant, en une seconde, en une fraction de seconde, le matin, ce matin-là où elle me tend le test, c'est comme si d'un seul coup je revenais à la réalité. Voilà. Et en revenant à la réalité, pour moi, c'est d'une violence inouïe dans ma tête, parce que je réalise en une seconde ce qui est en train de se passer, et ce que je fais, et ce que j'ai fait, et ce qui est en train de se passer. Et donc, pendant une journée, je parle pas du tout, Carole comprend pas, je la sens assez perturbée, évidemment. Et le lendemain matin, en me réveillant, elle est assise dans le lit, et là elle me dit « En fait, je t'ai menti, j'ai fait le trait avec un stylo, je suis pas enceinte. » C'était pour voir comment tu allais réagir. Là, je la regarde et je comprends pas. Je lui dis que je comprends pas ce qu'elle a fait, que je comprends pas qu'on puisse faire quelque chose comme ça, et que pour moi, ce qu'elle a fait, c'est inacceptable. Et je la quitte, instantanément. Je reprends mes affaires et je repars vivre dans la maison en colocation. Entre le moment où l'histoire avec Carole s'arrête et le moment où je vais rentrer en France 6 mois plus tard, petit à petit, semaine après semaine, je retrouve en fait l'envie d'être avec Céline. Je lui écris des lettres, on s'appelle de temps en temps. Petit à petit, je sens renaître en moi le désir d'être avec elle. 6 mois plus tard, ma mission s'arrête et donc je rentre en France et je retrouve Céline qui vivait chez ses parents. Et lorsqu'on se retrouve, en fait, Céline m'avoue que à Tahiti, elle est tombée amoureuse et elle a eu un début d'aventure avec un des colocataires, un des VAT qui vivait avec nous dans la maison. Et que la raison pour laquelle elle est partie, c'est parce qu'elle ne voulait pas vivre cette histoire. Elle avait besoin de réfléchir, elle avait besoin de se retrouver. Donc elle a arrêté son aventure naissante avec ce colocataire que je connaissais évidemment, puisqu'on vivait ensemble dans la même maison tous, et qu'elle a préféré rentrer pour faire le point. Donc quand elle me raconte cette histoire, déjà je comprends pourquoi elle est partie. Puisqu'à l'époque, j'avais pas particulièrement compris, mais je m'étais pas vraiment posé la question parce que je vivais moi de mon côté une histoire avec Carole. Je lui raconte mon histoire avec Carole et je dirais que voilà, tous les deux, on se pardonne mutuellement nos incartades tahitiennes et on décide de prendre un appartement ensemble, pas loin de chez ses parents d'ailleurs, et de reconstruire et de repartir et de reconstruire notre couple. On est un couple à la fois vieux et jeune, puisqu'on a 7 ans de couple, enfin 8 ans presque. On est encore des jeunes adultes, et c'est la première fois qu'on vit une crise pareille. C'est la première fois que on n'est pas passé loin de se séparer. C'est la première fois qu'on s'est trompé mutuellement. On se reconnecte en fait l'un à l'autre, et surtout on apprend le pardon parce que tous les deux ont réussi à se pardonner mutuellement, et cette complicité revient. Elle s'apprend du temps, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, mais ça revient. En parallèle de ça, moi, je cherche un travail puisque j'ai fini mon service militaire civil et je trouve un travail chez IBM qui décide de m'envoyer aux États-Unis pour faire une mission aux États-Unis. Et donc, on part, Céline et moi, aux États-Unis pour quelques mois. On est parti presque un an à Raleigh, en Caroline du Nord, où on vit donc une expérience assez belle. Quand on rentre des États-Unis, on s'installe à Nice. Et là, on est donc en 92. Et en 93, naît notre premier enfant, un garçon. Et en 94, on achète notre premier appartement dans lequel on s'installe. Et en 95, naît notre deuxième enfant, une fille. Et là, on est heureux, on est solide, on vit vraiment des années très très belles, les mêmes années qu'on a vécues, je dirais, avant la crise de Tahiti. Des années complices, des années on a nos enfants, c'est vraiment la construction de notre couple et de notre famille. Moi, je travaille chez IBM. Céline a un boulot également, elle travaille à Nice. C'est vraiment des belles années. Vraiment des belles années qui d'ailleurs, il y en a plusieurs comme ça. Voilà, on élève nos enfants qui grandissent, comme une famille normale qui s'aime, et on a une vraie complicité, on s'entend super bien. On a des amis, on vit la vie normale d'un couple, jusqu'aux années 2000 où un jour je suis chassé pour aller prendre un job de directeur général à Paris. On arrive à Paris en juin 2000, tous les quatre, et on loue au départ un appartement pas loin du boulot. Et là, j'ai vraiment de grosses responsabilités, j'ai un job très prenant, donc je travaille beaucoup, je pars très tôt le matin, je rentre plutôt tard le soir, et je me rappelle d'une anecdote avec mon fils, où un matin, je me lève assez tôt, 5h30, je prends ma douche, etc., je vais dans la cuisine pour prendre mon petit déjeuner sans réveiller personne, et là j'arrive et je vois mon fils attablé à la table de la cuisine dans la nuit, dans la pénombre, et je lui dis « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et là, il me dit, je me suis levé, j'ai mis mon réveil parce que comme je te vois jamais, j'avais besoin de te voir. Sinon, je te vois jamais. Ça m'a vraiment fait réaliser qu'il fallait vraiment que je fasse attention et que je sois plus présent parce que si je travaillais autant, j'allais passer à côté de ma famille et même de mon couple. On avait déjà eu une crise et j'avais pas envie d'en vivre une deuxième. Et donc, suite à ça, j'ai quand même commencé à faire attention et à essayer de rentrer de temps en temps, plus tôt, d'aller chercher mes enfants à l'école. Pour que justement, voilà, mon fils a été vraiment un déclencheur et m'a fait réaliser qu'il fallait faire attention. Quand il y a cet épisode avec mon fils, j'essaye vraiment de prendre des moments et de leur donner du temps. Parce que je m'aperçois que voilà, la vie que j'ai, c'est une vie qui est vraiment très intense. C'est à cette époque-là qu'on décide petit à petit, on commence à investir dans le sud de la France, dans l'immobilier, l'endroit d'où on venait. Donc nous, on venait du sud de la France, donc on commence à investir et acheter des appartements dans le sud de la France. Et entre autres, on en achète un qui va devenir notre résidence secondaire. Qui est au bord de mer, dans une petite calanque, vraiment paradisiaque, et on commence à y aller très souvent, quasiment tous les week-ends entre avril et septembre. Et là, on vit vraiment une époque vraiment paradisiaque. Et puis arrivent mes 50 ans, où je fais une grosse fête pour mes 50 ans. Là, on est donc en 2015. Je fais une grosse fête avec mes meilleurs amis, et quelques semaines, voire quelques jours avant mon anniversaire, j'ai mon meilleur ami qui se suicide. Et ça va être un choc vraiment très, très fort pour Céline, qui va en tomber malade, qui va en faire une angine blanche, qui va rester au lit plusieurs jours, qui va en parler énormément et qui va, plus que moi, alors que c'était plutôt mon ami d'enfance, mais c'était devenu le sien aussi, et qui va vraiment le vivre très mal. Suite à ça, Céline décide d'arrêter de travailler. Quand elle décide d'arrêter de travailler, je lui propose d'aller s'installer dans le sud, dans notre appartement, dans la Calanque, d'aller s'y installer 6 mois par an pour éviter de faire les allers-retours. Cet événement-là, c'est un événement qui, avec le recul, commence à signer un peu le début de ce qui va nous arriver plus tard. Avec le recul, je ferai plus comme ça. En s'installant dans le sud pendant 6 mois, on s'éloigne, on commence doucement, de façon extrêmement, on va dire, en pointillé, de façon en filigrane un petit peu, mais on commence à s'éloigner parce qu'elle commence à vivre seule, en fait, la semaine. Elle est plus avec moi. Moi, je suis à Paris tout seul la semaine, je bosse et je la rejoins le week-end, mais simplement le week-end. Et donc, pendant 6 mois, on ne se voit que les week-ends. À ce moment-là, notre fils est en école d'ingénieur et il doit faire un stage. Je lui ai trouvé plusieurs stages possibles avec mon réseau sur Paris et je vois qu'il fait rien, il se bouge pas, il envoie pas son CV, etc. Donc je me mets à discuter avec lui et il fond en larmes. Et là, il m'avoue que quelques mois plus tôt, dans une soirée, pour la première fois de sa vie, il a pris une pilule de drogue. Et que cette pilule lui a fait faire un very bad trip, c'est-à-dire qu'il a passé une nuit affreuse, il a eu l'impression de sortir de son corps, enfin je ne sais plus ce qu'il me raconte, mais il vit quelque chose d'horrible, et que depuis ce moment-là, et depuis quelques semaines, sans nous l'avoir dit, il a des angoisses terribles, il n'arrive plus à sortir dans la rue, il n'arrive plus à aller en cours, il pleure tout le temps, je lui fais faire des examens pour lui montrer qu'il n'a pas de séquelles physiques. Et puis, comme il veut pas prendre de médicaments et que j'en ai pas particulièrement envie non plus, on met en place plusieurs choses. Il se met à la méditation, je le fais voir une psy. Tant et si bien que semaine après semaine, ça va beaucoup mieux. Mais il reste quand même très, très angoissé. Donc, il peut retourner en cours, il peut recommencer à voir ses copains. Il pleure plus toute la journée, mais il continue à avoir quand même des angoisses très fortes. J'avais entendu parler de Compostelle, je savais pas trop ce que c'était. Mais je savais que c'était intéressant et donc je lui propose, je lui parle de ça. Il me demande ce que c'est, je lui explique ce que je sais à l'époque de Compostelle. Et il accroche tellement qu'une semaine plus tard, il part. En fait, il fait son sac, il décide de s'en aller et il part sur Compostelle. Il y a plusieurs chemins de Compostelle, mais lui, il prend le chemin d'Arles. Et donc, il part d'Arles mi-septembre 2016 et il va marcher 3 mois. Arrivé à Compostelle mi-décembre 2016, il va rentrer le jour de l'anniversaire de mon frère. Je me souviens toujours de son retour. Et ce qui est complètement incroyable dans cette histoire, c'est que j'ai laissé partir un adolescent plein d'angoisse et j'ai récupéré un homme complètement guéri. C'est-à-dire quand il est rentré, il était complètement guéri de ses angoisses et complètement apaisé, tant et si bien d'ailleurs que après il a changé sa vie, il a quitté son métier d'ingénieur pour devenir professeur des écoles, il a quitté Paris pour aller s'installer dans le sud de la France. Bref, il a complètement changé sa vie. Les enfants quittent la maison, tous les deux, ils trouvent un boulot. Et depuis une dizaine d'années, on avait un projet qu'on avait ensemble appelé le projet 2020, où on s'était dit, en 2020, on arrêtera de bosser et on retournera vivre dans le sud. En 2019, je suis aux États-Unis, je voyageais énormément pour mon travail, donc je suis aux États-Unis, et quand j'arrive dans la chambre d'hôtel, le rideau se ferme mal, et je monte sur, il y a un petit rebord devant la fenêtre avec un coussin, je monte sur le coussin pour fermer le rideau, j'arrive à le fermer, et en redescendant, je vois pas que le coussin dépasse, il y a un débord du coussin par rapport au socle en béton, et je pose mes pieds sur le bout du coussin qui est dans le vide, et je tombe en fait par terre, mes deux pieds rentrent en fait dans l'intérieur, je tombe dans les pommes tellement la douleur est forte. Je vais voir un spécialiste en arrivant à Paris. Et là, le spécialiste me dit que sur un pied, j'ai une énorme entorse. Bon, ça, c'est pas grand-chose. Mais que sur l'autre pied, je me suis abîmé le lisfranc, qui est en fait le tendon qui relie les orteils. Ça s'appelle l'accident des danseuses étoiles, parce que c'est quand elles font des pointes qu'elles se font ça en rentrant les pieds vers l'intérieur. Et que ça s'opère pas, ça se plâtre pas. Il y a que le repos et que j'ai 2 chances sur 3 de boiter. Donc je me mets au lit pendant plusieurs mois, pendant 2 mois, en espérant que ça revienne. Et pendant ces 2 mois-là, le projet 2020 revient à ma tête, même si on en parlait souvent et que je l'avais souvent en tête, mais il revient dans mon esprit et je me dis bah c'est peut-être le moment d'arrêter. Et donc quand je reprends le boulot après mon accident, je négocie une rupture conventionnelle avec mon employeur et j'arrête de travailler. Et là on est début 2020, juste avant la pandémie qui va arriver le 17 mars. Et donc, j'arrête de travailler, on vend notre appartement de Neuilly-sur-Seine et on part s'installer dans notre maison qu'on avait achetée entre-temps dans le sud de la France. Pour nous, c'est l'occasion de retourner dans le sud, dans notre région d'origine, et de profiter de la vie, de voyager, de profiter de nos enfants, peut-être de nos petits-enfants à venir, de nos amis, etc. L'été arrive après le confinement et juste après l'été 2020, moi je rentre en déprime. Et alors là, pour moi la déprime c'est vraiment quelque chose que je connais pas. J'ai une personnalité très optimiste, très positive, très dynamique, etc. J'ai toujours le moral et là de me retrouver du jour au lendemain, de me lever le matin en étant triste, changer une ampoule me semble une montagne alors que je suis quelqu'un qui est capable de qui n'a jamais peur de rien et pour qui rien n'est un problème. Là, tout était un problème, tout me semblait compliqué. Je me levais avec la boule au ventre, j'étais triste tout le temps, j'avais envie de pleurer. Bref, j'étais en déprime. Je sais pas ce qui se passe. Je veux pas prendre de médicaments, je veux pas me faire aider. J'écris beaucoup à ce moment-là, je me renferme beaucoup et Céline m'aide pas. Plusieurs fois, je lui demande de l'aide, plusieurs fois, je lui dis mais aide-moi à m'en sortir. Elle me dit mais je sais pas, je suis impuissante, je sais pas quoi faire. Et donc je me débrouille tout seul et ça dure comme ça plusieurs mois. Pendant cette période-là, je me souviens que Céline est venue me voir 1 ou 2 fois en me demandant si ce qui se passait, c'était pas lié à nous. Et je me souviens lui avoir dit « mais pas du tout, je comprends même pas pourquoi tu me dis ça ». Mais avec le recul et avec ce qui va se passer, c'est quelque chose qui m'est revenu et qui me semble important. Et je sors de cette déprime à peu près 6 mois plus tard, au mois de mars-avril 2021. Et là, quand j'en sors, je reconnais pas Céline. Je sens que ça va pas. Elle est plus là. En fait, la personne qui est là, c'est pas la personne que j'ai laissée 6 mois avant quand je suis rentré dans ma déprime. Elle est absente, elle est fuyante, elle est distante. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le même état que ce qu'on a vécu à Tahiti des années plus tôt, des décennies plus tôt même. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là, je me dis, on va vivre une crise, c'est normal, en même temps, on change de vie, il faut trouver nos marques dans cette nouvelle vie, donc je m'inquiète pas plus que ça, mais je ressens que quelque chose dysfonctionne, on parle pas, elle est fuyante, elle a pas envie de faire des choses avec moi. Le 14 septembre 2021, on n'était pas un couple qui se disputait beaucoup, voire presque pas, mais ce jour-là, on a une petite dispute anodine, et là, Céline me regarde et elle me dit « je crois que je ne t'aime plus ». et on vit une semaine du 14 au 21 dans la même maison où elle me parle quasiment pas. Elle est extrêmement froide, extrêmement distante. Moi, j'essaye de discuter avec elle de ce qu'elle vient de me dire, qui me semble être une bombe atomique, et où elle me dit je ressens cette distance entre nous et je sais pas si je t'aime encore. Le 21 septembre, elle dit j'ai besoin d'aller faire le point et elle décide d'aller s'installer dans un cabanon qu'on a dans la Calanque et qui est vide et qu'on a acheté pour nous, pour notre famille, pour en profiter. Pour moi, c'est un cataclysme, c'est un tsunami et je m'effondre vraiment. Je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas pourquoi elle s'en va. Donc les premiers jours, on dit rien à nos enfants, on dit rien à personne et moi je me dis ça va être un moment. D'ailleurs, le lendemain, notre fils venait déjeuner avec nous. Il vient déjeuner au cabanon. Et donc, moi, j'arrive en avance parce qu'on n'a pas dit à notre fils que sa mère a décidé d'aller dormir ailleurs. Et au moment où j'arrive, c'est donc la première nuit qu'elle a passée seule. J'arrive, elle me prend dans ses bras, elle me serre hyper fort. Elle me dit « Mais tu m'as trop manqué cette nuit. » Et ça va être la seule fois où elle est comme ça. Puisque juste après ça, on fait le déjeuner avec notre fils qui repart et après, elle se renferme. Et ensuite, dans les 3 mois qui vont suivre, je vais faire tout ce que je peux pour lui demander de nous donner une chance, pour lui demander de m'expliquer, pour lui parler. Je lui ai écrit des centaines de lettres. On s'est parlé des centaines de fois. On a marché main dans la main. Pendant les 3 mois qui vont suivre, j'ai jamais réussi une seule fois à la convaincre de nous donner une chance. Elle n'ouvre absolument aucune porte. Elle est très tendre, très gentille, très douce avec moi, très compatissante. Elle me sent extrêmement triste, je pleure tout le temps, j'ai maigri, je suis complètement perdu. Mon monde s'est écroulé et je ne comprends pas ce qui se passe. Moi, je pense que quand on a encore aimé, il y a toujours possibilité de rallumer la flamme. En tout cas, je fais tout ce que je peux pour essayer de la convaincre de nous donner une chance. Et malgré sa compassion, sa gentillesse à mon égard, quand je l'appelle, quand je lui demande qu'on se voit, quand je lui écris, elle me répond tout le temps. Quand je lui écris des lettres ou des messages WhatsApp, elle me répond, elle toujours gentiment. Mais il n'y a jamais, absolument jamais, le début d'une ouverture. C'est toujours la même posture, c'est « je t'aime encore, mais plus assez pour être ta femme ». Ma vie à ce moment-là, elle s'écroule complètement. D'abord parce que je suis avec elle depuis 37 ans, et donc c'est à la fois ma meilleure amie, ma femme, ma confidente, ma sœur, c'est la mère de mes enfants, elle est absolument tout pour moi. Ensuite parce que moi, je m'entends très bien avec elle. On n'est pas un couple du tout apparemment en crise. Un exemple que je peux donner de ça, c'est que Céline m'avait offert un stage d'apnée, parce que moi je suis moniteur plongée, j'adore la mer, et donc elle m'avait offert un stage d'apnée quelques jours avant notre séparation. Je suis parti 4 jours sur son catamaran avec un groupe de gens faire un stage d'apnée. En partant, j'avais caché dans la maison des petits mots un peu partout, où j'avais écrit « Je t'aime, t'es l'amour de ma vie », etc. Et je recevais des SMS d'elle, où elle me disait « Ah, j'ai trouvé ton petit mot dans mes chaussettes, moi aussi je t'aime, et toi aussi t'es l'amour de ma vie ». Et ça, c'était 4 jours avant que ça explose. 1 semaine et 4 jours avant qu'elle s'en aille. Donc, pour moi, c'est un cataclysme, je comprends pas. Au début, j'ai été envahi par les peurs, évidemment, envahi par le désarroi, envahi par la tristesse, envahi par tous les sentiments et toutes les émotions qu'on peut imaginer. Début 2022, je me dis tu peux pas rester comme ça, je suis toujours mal, j'ai toujours la boule au ventre, je suis toujours triste, mais je me dis je peux pas rester comme ça, il faut absolument que je fasse quelque chose, et donc je décide 2 choses, je me décide de trouver une copine pour me changer les idées et puis surtout essayer de retomber amoureux et surtout de retrouver un boulot. Donc, je trouve une copine début janvier et je trouve un boulot assez rapidement, à peu près en février. On est mi-mars à peu près, j'ai le contrat et j'ai tout négocié, je reçois le contrat chez moi et j'arrive pas à le signer. Et au bout de 3 jours, je me dis, bon, ben, il faut pas que je le signe. Je pense que si j'arrive pas à le signer, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Et j'appelle le chasseur et j'appelle la société, je décline. Je suis dans ma voiture et j'appelle mon fils. Et je dis à mon fils, voilà, ben, le job dont je t'avais parlé, finalement, j'ai renoncé. Et là, mon fils me dit, tu sais, papa, je te l'avais pas dit parce que ça me regarde pas. Finalement, c'est ton histoire, c'est ta vie et c'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Mais je pense que t'as eu raison. T'as eu raison parce que ce boulot, finalement, c'était mettre un pansement sur une plaie qui n'était pas soignée. Et je pense que ça t'aurait absolument rien apporté de repartir dans un boulot hyper prenant, hyper intense. Tu serais rentré dans la roue du hamster, mais t'aurais absolument pas guéri ta blessure. Et je lui dis, bah tu vois, je suis content, mon fils, qu'on soit en face parce que c'est exactement cette conclusion à laquelle je suis arrivé. C'est pour ça que j'ai dit non. Et là, mon fils me dit, et plutôt je dis à mon fils, mais le problème, c'est que du coup, je sais pas quoi faire. Parce que c'était pour moi la solution que j'avais trouvée pour essayer d'aller mieux. Et comme je l'ai décliné, bah, je sais pas quoi faire. Et là, je me rappellerai toujours de ce moment parce que là, mon fils me regarde et me dit, mais moi, papa, je sais ce qu'il faut que tu fasses. Et je lui dis, mais quoi? Il me dit, bah, Compostelle. Et là, à ce moment-là, il me rend le même cadeau que je lui ai fait 6 ans plus tôt. Et c'est un moment qui sera toujours gravé dans mes souvenirs comme un moment hyper important de ma vie, parce que quand il me dit ça, ça me crée une émotion hyper forte. Et je lui dis, mais t'as tellement raison. Mais oui, mais c'est exactement ça. Et je me souviens, j'ai fait demi-tour sur l'autoroute, j'étais sur l'autoroute, et je suis allé à Marseille au Vieux Campeur acheter mes chaussures, et je suis parti sur Compostelle 15 jours plus tard. Et je me souviens de deux événements importants avant que je parte. Le premier, c'est que je suis allé voir Céline dans notre cabanon, et je me rappelle avoir pleuré, mais toutes les larmes de mon corps pendant de longues minutes. Je l'avais déjà vécu à travers mon fils, donc je savais que c'était quelque chose qui était fort, mais je savais pas à quel point ça l'était. Mais je ressentais profondément au fond de mon cœur, j'avais cette intuition, ce sentiment que la personne que j'étais ne reviendrait pas. Ça serait vraiment une autre personne. Je me souviens avoir pleuré dans ses bras pendant de longues minutes, comme si je me disais au revoir quelque part. C'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Et la deuxième chose importante qui va avoir un sens encore plus important après, c'est que je démarre un carnet, évidemment, parce que bon, enfin, évidemment, moi, comme je suis quelqu'un qui écrit et qui peint, donc évidemment, j'ai commencé un carnet, et avant de partir, je m'écris une lettre dans laquelle je me parle, etc., que je colle au début du carnet. Dans cette lettre, je dis deux choses à la fin. Je me dis, je pars pas pour plus souffrir, parce que du 21 septembre jusqu'au 8 avril, au moment où je pars sur Compostelle, je suis malheureux. Tous les jours, je suis malheureux. Tous les jours, j'ai la boule au ventre. Tous les jours, je suis triste, évidemment, avec des intensités différentes. Parce qu'avec le temps, avec les semaines qui passent, ça s'atténue, mais j'ai toujours cette boule au ventre tous les matins quand je me lève, et j'ai cette tristesse qui est là tout le temps. Et donc, je m'écris cette lettre à moi-même, et j'écris dedans, je ne pars pas pour ne plus être malheureux, je ne pars pas pour ne plus souffrir de ma séparation, je pars pour me reconnecter à moi, et je pars surtout pour apprendre à m'aimer. Et je réalise, en fait, pendant ces semaines, là où j'étais seul, où j'étais célibataire, où j'étais séparé de Céline, j'ai réalisé que j'avais vraiment un chemin à faire sur l'amour de moi, et que si je voulais apprendre à aimer quelqu'un, il fallait que je commence à apprendre à m'aimer moi. Et donc j'écris ça dans cette lettre, et je finis ma lettre par une question en disant « Mais je ne sais pas si c'est ça le plus important, si c'est ça que je vais chercher sur le chemin, si c'est ça la chose la plus importante à aller chercher sur le chemin. » Et je pars. Donc le 8 avril, Céline m'amène à la gare, je prends le train, je monte au puits et je pars. Et là, je vais vivre 3 mois absolument incroyables, 3 mois inoubliables, 3 mois... J'ai pas de qualificatif et d'adjectif pour qualifier ce que j'ai vécu. Je pense que Compostelle, c'est quelque chose que tout le monde devrait vivre une fois dans sa vie, tellement c'est puissant, riche et incroyablement magique. C'est à la fois une connexion à soi incroyable, un voyage intérieur inexplicable, c'est à la fois une connexion à la nature folle, c'est à la fois des rencontres inexplicables et magiques, c'est à la fois des synchronicités, des moments qui sont inexplicables. Sur le chemin de Compostelle, en fait, il y a 2 types de gens. Il y a des pèlerins, ce que moi j'ai appelé des pèlerins et des randonneurs, enfin ça s'appelle comme ça, mais des pèlerins et des randonneurs. Et c'est vraiment 2 populations très différentes. Les randonneurs, souvent, font ça avec leurs femmes ou avec leurs enfants ou avec leurs amis. Et ils font ça pour le sport, pour la nature, pour marcher, pour être bien dans la nature. Alors que les pèlerins sont toujours seuls. Ils le font en entier ou pas en morceaux, parce que ça dépend des gens, hein. Tout le monde n'a pas la possibilité toujours de partir 3 mois comme je l'ai fait. Mais en tout cas, ils sont toujours seuls et ils sont toujours une quête, une question, un sujet. C'est soit des gens qui sont là parce qu'ils ont vécu un divorce comme moi, ou des gens qui sont sur Compostelle parce qu'ils ont vécu un deuil, une maladie, ou alors parce que ils sont au chômage et qu'ils se posent des questions. Et là, donc, la première journée, je marche avec une pèlerine, on marche une journée ensemble, on se raconte nos vies, bon, voilà. La deuxième journée, elle me dit, maintenant que je sais un peu mieux qui tu es, je vais te partager ça parce que je te l'ai pas dit avant, mais moi, ma maman est morte il y a 10 ans et elle me parle. Et elle me dit, elle me parle souvent pour les gens avec qui je suis. Donc, si jamais, elle me parle pour toi, est-ce que tu veux que je te le dise? Et là, je lui dis, oui, si elle me parle pour moi, dis-le-moi. Ça, c'est le 2e jour, on continue de parler, on continue de se raconter nos vies et de discuter. Le 3e jour, on vient de partir, je me rappelle, c'est le matin, il est tôt, il doit être 8h ou 7h30. Il fait froid, je me souviens, il y a une espèce de buée de nuages dans la forêt, c'est trop beau. Comme partout d'ailleurs, sur tout le chemin, c'est magnifique. Et là, elle me dit, il y a ma maman qui est en train de me parler. Et ma maman me demande si tu as quelqu'un dans ta famille qui s'appelle Victor. Et là, il faut savoir que Victor, c'est mon grand-père, la personne chez qui je vivais quand j'ai rencontré Céline. C'est l'homme le plus important de ma vie, en tout cas c'est mon aïeul le plus important, celui qui m'a le plus marqué, c'est un homme d'une bonté absolue et c'est surtout l'homme qui m'a fait vraiment découvrir ce que c'est que l'amour filial. Et donc je lui dis oui, j'ai quelqu'un dans ma vie qui s'appelle Victor. Mais à ce moment-là, quand elle me dit ça, je me dis ouais, bon, j'ai dû certainement lui en parler. Ça fait 2 jours qu'on parle, donc bon, voilà. Et là, elle me rajoute, ma maman me dit que d'ici ce soir, Victor te passera un message. Et là, je me dis ouh là, on est dans quelque chose de différent. Et donc je passe la journée en marchant à attendre un message de Victor, parce que sur le chemin de Compostelle, il y a énormément de marcheurs et donc il y a des phrases écrites sur les murs, sur les arbres. Donc je cherche une phrase signée Victor, j'en vois pas, je m'attends à ce qu'un pèlerin s'arrête à mon côté et me délivre un message, quoi. Enfin, me dise quelque chose et me dise qu'il s'appelle Victor, mais il se passe rien. Et le soir, j'arrive dans mon auberge, je remonte me toucher, c'est un donativo, donc c'est des auberges où on donne ce qu'on veut. Je redescends à la table commune et je rallume mon portable que j'avais éteint pendant la journée. Et là, je reçois le message d'une copine que j'avais eue au téléphone en novembre dernier, donc 6 mois plus tôt, que j'avais jamais rencontrée, que j'avais eu 2 fois au téléphone, à qui j'avais parlé de plein de choses, dont mes livres, et dont mon premier livre qui s'appelle Les Petits Galets. Et là, elle me dit, j'ai lu Les Petits Galets, j'étais dans le train entre Nice et Lyon, j'ai acheté à la FNAC, je l'ai lu, j'ai adoré. Donc elle me fait tout un paragraphe d'éloge et gentil. Et puis elle me dit, mais j'ai surtout aimé à la page, je sais plus combien, 89, quand Victor dit, 2 points, pour aimer les autres, il faut commencer par s'aimer soi-même. Et là, pour moi, ça a été un moment juste d'une intensité rare, parce que, bien sûr, cette phrase, c'est moi qui l'ai écrite, bien sûr, j'avais un personnage qui s'appelait Victor dans Les Petits Galets, puisque c'était mon grand-père, mais que quelqu'un me dise, ma maman me dit que d'ici ce soir, tu auras un message de la part de Victor, que je reçoive ce même jour un message de quelqu'un qui me cite une phrase de Victor et que la phrase qu'elle me cite est la phrase que moi j'écris dans ma lettre en partant sur Compostelle, ça m'a bouleversé. Mais des événements comme ça, j'en raconte un, il y en a eu plein. Une autre anecdote, par exemple, depuis le départ de Céline le 21 septembre jusqu'au jour où je passe les Pyrénées, le 15 mai, tous les jours, je me lève et j'ai la boule au ventre, tous les jours. À un moment donné, je découvre sur le chemin qu'il y a, quand on arrive en Espagne, il y a 2 chemins possibles. Il y a le Camino français, qui est le chemin le plus classique, et il y a ce qu'on appelle le Norte, qui est le chemin qui passe par le nord. Et je discute avec une responsable d'auberge qui a fait plusieurs fois les 2 chemins pour savoir lequel prendre. Et elle me dit, tout dépend si vous êtes un pèlerin ou un randonneur. En gros, si vous êtes un pèlerin, il faut prendre le Camino français parce que c'est le plus chargé, donc c'est celui que j'ai pris. Si vous êtes un randonneur, prenez l'autre. Il est moins spirituel, mais il est plus beau. Mais elle me dit, par contre, quel que soit le chemin que vous faites, je vous conseille de passer les Pyrénées. Et je lui demande pourquoi. Elle me dit, parce que les Pyrénées, c'est quelque chose de complètement magique, où on laisse tout, en fait, on laisse derrière soi toute sa douleur, toute sa tristesse, et c'est vraiment un passage incroyable. Et cette chose-là, je le garde en tête pendant tout le chemin. Et le jour où je passe les Pyrénées, c'est vraiment une journée assez éprouvante, hein. Je pars à 4h du matin, on arrive le soir assez tard. Et je passe la journée, il y a beaucoup de vent, et toute la journée, je crie dans le vent. Toute la journée, je crie en marchant, je crie, je laisse ma tristesse derrière moi, je laisse ma douleur derrière moi, je laisse toute cette boule au ventre derrière moi. J'arrive à Roncevaux, je me couche, le lendemain matin, je me réveille, je n'ai plus la boule au ventre. Je le ressens en me levant, et c'est la première fois depuis le 21 septembre de l'année d'avant, je me lève, je n'ai plus cette boule. Quand on est sur Compostelle, tout le monde vous dit, le jour où ça s'est fini, vous le savez. Voilà. Le jour où le chemin se termine, vous le savez, et c'est pas toujours en arrivant à Compostelle. Moi, c'est en arrivant à Compostelle que je l'ai su. Donc, j'ai marché 1600 kilomètres. Et il s'est passé 3 mois, puisque je pars, quand Céline m'amène à la gare, on est le 8 avril, et quand je rentre chez moi, on est le 8 juillet. Donc il s'est exactement passé 3 mois, et 1600 kilomètres après, quand je rentre, eh bien je sais que déjà je souffre plus, j'ai plus mal, et j'ai compris énormément de choses. Et j'ai compris entre autres qu'il fallait que je me reconnecte à moi, qu'il fallait que j'apprenne à m'aimer, à me respecter. Et j'ai une paix intérieure que j'ai des difficultés à décrire, mais qui est quelque chose de qui ne m'a pas quitté d'ailleurs depuis, mais qui m'a vraiment énormément aidé. Et suite à ça, je commence à lancer notre séparation matérielle, c'est-à-dire la séparation de nos biens, la séparation de nos comptes, la vente de notre maison et notre divorce. Et on a divorcé physiquement le 19 octobre dernier, donc c'est très récent. Aujourd'hui, je sais que cette séparation, que j'ai pas voulu, que j'ai subi, mais je sais que ça a été un cadeau. Et d'ailleurs, j'ai fait une lettre à Céline dans ce sens, en lui disant merci. Et je lui ai même dit, en rentrant de Compostelle, je te remercie de m'avoir quitté, parce que si tu ne m'avais pas quitté, j'aurais pas fait Compostelle. Et ça veut pas dire que j'étais content qu'elle m'ait quitté, pas du tout. Ça voulait juste dire que avoir fait Compostelle, ça pouvait valoir d'avoir été quitté tellement c'était quelque chose de fort et ça mesure à quelle importance a eu en ce chemin pour moi, vraiment. Moi, aujourd'hui, je suis en paix. J'ai pris un nouvel appartement, j'ai retrouvé un travail, j'ai retrouvé des nouveaux amis, on va dire une nouvelle vie. Je me suis reconstruit une nouvelle vie. J'ai une très belle relation avec Céline, on s'entend très bien, on a divorcé 100% à l'amiable, on a toujours une relation extrêmement tendre, tous les deux. J'aurai, je pense, toute ma vie la nostalgie de notre famille, qu'on a évidemment cassée, puisque j'ai toujours mes enfants que j'adore, et j'ai toujours une très belle relation avec Céline, mais on n'a plus cette vie familiale qu'on avait, et qui sera toujours pour moi quelque chose dont j'aurai la nostalgie. Mais la différence entre avant Compostelle et depuis Compostelle, c'est qu'avant Compostelle, j'avais cette nostalgie, et cette nostalgie me rendait triste. Aujourd'hui, j'ai cette nostalgie, et elle est là. Comme je dirais, un ami avec qui on parle, et je sais qu'elle est là, et je l'accepte, et en même temps, je suis reconnaissant à Céline du bonheur qu'elle m'a offert pendant ces 37 années qu'on a vécu ensemble, parce que j'ai vraiment été très heureux de ces années que j'ai passées avec elle. Je voudrais témoigner aussi du fait que la séparation, même si ça peut sembler un cataclysme au moment où ça se passe, au final, ça reste un cadeau, et qu'il vaut mieux être heureux de ce qu'on a vécu plutôt que triste de ce qu'on n'a plus. Moi, j'ai vécu 37 ans vraiment merveilleux avec Céline, et je n'ai absolument aucun regret de ce qui s'est passé, et je suis paradoxalement en même temps très heureux de ce que je vis aujourd'hui. J'ai une vie différente, je me suis reconnecté à moi, j'ai fait Compostelle qui était une aventure extraordinaire, j'ai commencé à apprendre l'amour de moi qui est le chemin d'une vie, et tout ça c'est aussi grâce à cette séparation.
Si vous avez aimé Ex, c'est que vous aimez les histoires intenses. Alors je vous invite à découvrir notre tout nouveau podcast qui s'appelle Les Rescapés. En attendant, merci à Clémentine Delagrange d'avoir réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard de l'avoir monté et mis en musique. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.